Bonjour et bienvenue dans De Bonne Foi, le podcast qui invite des jeunes à parler de leur rapport à la religion, la spiritualité ou la philosophie. Ils et elles sont athées, musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes ou agnostiques, et c'est à travers cette facette intime et parfois taboue de leur identité que j'ai appris à les connaître. Avec chacune de ces personnes, j'ai eu des discussions profondes et vécu des moments forts. Grâce à chacune d'entre elles, j'ai remis en question mes certitudes et bousculé mes préjugés. À travers ces échanges, j'ai aussi découvert des modèles de vivre ensemble qui m'ont profondément marqué. Je m'appelle Floriane et je veux partager ces rencontres avec vous. L'épisode que vous allez entendre aujourd'hui me tient particulièrement à cœur, car j'en rêvais avant même d'avoir créé ce podcast. J'ai rêvé de cet échange entre trois femmes qui comptent beaucoup pour moi.
Il fait chaud là, non?
Ah non, mais j'ai froid, moi je tremble.
Il y a d'abord Fanny, que j'ai rencontrée par l'association Coexister. Elle a 26 ans et est agnostique. Elle m'impressionne toujours par son discernement, sa force et son aura. Puis il y a Anne-Claire, une amie depuis le collège. Elle a 26 ans et elle est catholique. Anne-Claire est une personne très inspirante pour moi. Vous savez, c'est le genre d'amie que vous voyez peu, mais avec qui vous avez les conversations clés qui vous font avancer. Et enfin, il y a Nour El-Houda, ma belle-sœur. Elle a 41 ans et elle est musulmane. Nour El-Houda est pour moi un modèle de sagesse, de résilience, de persévérance et de bienveillance. J'ai une chance inouïe de la compter parmi les membres de ma famille. Je leur ai demandé quel était leur rapport à la prière et quelle est une place centrale ou inexistante dans leur vie. Chacune va raconter le cheminement qui les a amenées à cette conclusion. J'ai choisi de les faire témoigner l'une après l'autre sans interruption avant de laisser place à l'échange. C'était la première fois qu'elles se retrouvaient toutes les trois et je dois reconnaître que le résultat m'a submergée d'émotions. Bonne écoute.
Je m'appelle Fanny, j'ai 25 ans et je suis agnostique. J'ai été élevée dans une famille chrétienne catholique, j'ai fait ma première communion, j'allais à la messe tous les dimanches. J'ai choisi de ne pas faire ma confirmation, ce qui a probablement marqué ma première séparation avec ma religion d'origine, en laquelle je croyais réellement quand j'étais adolescente. Mais en fait, quand je me suis posé la question de faire ou pas ma confirmation, je me suis dit, est-ce que vraiment c'est ma foi à moi ou bien est-ce que c'est celle que j'ai héritée de ma famille? Et parce que la confirmation est un sacrement, je voulais pas du tout le prendre à la légère, donc j'ai choisi de ne pas faire ma confirmation. Et à mes 18 ans, quand j'ai eu mon bac et que je suis rentrée dans les études supérieures, je me suis demandé, ok Fanny, ça fait quelques années que tu vas plus à l'église, que tu ne te dis plus catholique, quelle est ta foi, en quoi est-ce que tu crois réellement? Et c'était aussi à ce moment-là que j'ai rencontré de nouvelles personnes, bien sûr, avec mes études, et que je rencontrais voilà, des juifs, des chrétiens, des musulmans, qui eux étaient sûrs d'eux, et puis moi, en fait, je savais pas ce en quoi je croyais. Et je me suis dit, ok, bon, on va commencer par le commencement, on va retourner aux racines, au catholicisme, et je vais lire la Bible, en fait. Je vais lire ce texte sur lequel tous les chrétiens se penchent pour comprendre leur religion. Et j'ai lu la Bible de A à Z, donc ça m'a pris un an. J'étais tout le temps avec ma Bible de poche sur moi, dans les transports, à n'importe quel moment de la journée, je prenais un moment pour lire quelques pages, et au bout d'un an, j'ai enfin fini de lire la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça paraît peut-être bizarre comme façon d'aborder la religion, mais en fait c'était pas mal pour moi parce que ça m'a permis d'ouvrir plein de discussions, d'abord avec ma mère qui est celle qui m'a le plus transmis la foi que j'avais, la foi catholique que j'avais à la base. Et voilà, ça a ouvert plein de discussions avec elle. Et puis à l'époque, je sortais avec un garçon musulman et ça m'a permis aussi d'ouvrir des discussions avec lui. C'est-à-dire que moi, je lisais quelque chose dans la Bible. Ah ok, bon, Jésus, par exemple, il est à la fois Dieu et homme. Ben toi, qui es musulman, t'en penses quoi? Et puis toi, dans ta religion, ça c'est pas possible. Donc on discutait tout le temps de religion. C'est aussi à cette époque que je me suis ouvert aux autres religions. Donc j'ai à la fois reconnecter avec ma religion d'origine, mais je suis aussi allée voir d'autres communautés. Donc ça, ça veut dire appeler la synagogue, dire « Bonjour, bon, je suis catholique, est-ce que je peux venir à un Shabbat ?»« Ah bah oui, bien sûr, venez. » Et donc moi qui prends mes petites affaires et qui vais faire Shabbat un vendredi soir, c'est aussi moi qui ai proposé à mon copain l'époque d'aller à la mosquée pour suivre des cours sur l'islam. Enfin voilà, je me tournais vers toutes les communautés accessibles autour de moi pour comprendre quelle était leur foi, maintenant que j'avais un peu mieux compris quelle était ma foi à la base, la mienne. Et c'était un moment super riche, c'est aussi le moment où j'ai découvert l'association Coexister. Bah, j'ai clairement intégré cette association pour rencontrer l'altérité, pour rencontrer des personnes qui avaient une foi différente ou bien qui ne savaient pas quelle était leur foi, bref, pour avoir un espace de discussion et de découverte des fois et des convictions des autres. Mais en fait, j'étais pas plus avancée, c'est-à-dire que d'un point de vue un peu théorique ou théologique, j'avais appris beaucoup de choses, mais moi, au fond de moi, j'avais toujours pas compris ou senti quelle était ma foi à moi. Ma foi catholique, je la retrouvais pas, je me sentais pas chrétienne, je me sentais pas adhérée au credo chrétien. L'islam m'attirait beaucoup, notamment parce que j'avais découvert beaucoup de témoignages de personnes converties, et ces personnes rayonnaient. Et ça, ça m'a beaucoup interpellée. Je regardais beaucoup de vidéos de femmes converties qui vraiment, on le sentait dans leurs témoignages, avaient trouvé leur chemin, avaient trouvé leur identité. Et je me disais, mais j'aimerais tellement moi aussi trouver ce en quoi je crois et avoir cette force qu'elle dégageait. Une certitude. Voilà, moi j'ai trouvé, c'est ça ma foi. Et maintenant que je suis dans l'islam, je me sens bien, je me sens à ma place. Et vraiment, dans ma tête, je me disais, mais j'aimerais tellement me réveiller un matin et me dire, ok, c'est évident, je crois en ça. Mais si j'étais honnête avec moi-même, ben non, j'avais toujours pas trouvé. Et ce que j'ai compris a posteriori, c'est que j'avais en fait un besoin de trouver mon identité, de trouver qui j'étais, et que là j'étais clairement perdue parce que j'arrivais pas à me définir du point de vue de la conviction. J'arrivais à me définir sur d'autres plans de mon identité, parce qu'une identité elle est pas unique, elle est pas sur une seule dimension, elle est sur plein de dimensions. Sur la dimension religieuse ou spirituelle, j'arrivais pas à me définir. J'ai continué, voilà, mes enquêtes, mes pérégrinations dans les lieux de culte avec des communautés, et puis j'ai vécu des trucs vraiment improbables. Enfin, à cette époque-là, j'ai eu une maladie grave, j'avais rencontré une communauté chrétienne évangélique à Bordeaux, et ces jeunes femmes que j'avais rencontrées sont venues me voir dans ma chambre d'hôpital, ont prié, en mode « les mains sur moi, Jésus est là, il est avec nous, je l'ai senti, il était avec nous », enfin... Puis moi, j'étais là, bon, bah, merci beaucoup. Je vous crois pas. Enfin, dans le sens, moi, je crois pas en ça. Je crois pas que Jésus était là à côté. Mais par contre, ça me touche énormément que vous soyez venu me voir à l'hôpital alors qu'on se connaît depuis 15 jours, quoi. Voilà, que des choses comme ça un peu folles. Et un peu la fin et la libération de cette quête spirituelle, ça a été un voyage au Brésil. C'est un voyage que je me suis offerte seule. C'est la première fois que je voyageais seule et c'était totalement pour signer la fin de ma maladie, la fin de mon traitement. Et en fait, je suis allée faire du volontariat dans un ashram. On peut voir ce ashram comme une communauté de personnes qui ont décidé d'habiter au même endroit, en autonomie partielle, c'est-à-dire ils font pousser leurs fruits et légumes, ils sont suffisants, autosuffisants. Et j'y suis restée un mois. Et en fait, ce qui lie ces personnes au ashram, c'est la volonté, comment dire, il n'y a rien en commun du point de vue de la religion, il y a la volonté de transcender sa vie et de, c'est vraiment dur à définir, hein. Enfin de se dire qu'on est plus que juste des mammifères sur cette planète, et qu'on ne connaît rien à ce qui se passe. La base, au ashram là-bas, c'était de dire je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui est bien, ce qui est mal, s'il y a Dieu, s'il n'y a pas Dieu. Et ça, ça m'a ramenée à une vraie humilité, moi qui voulais absolument trouver ma vérité, ma communauté, mes rites. En fait, non. D'un point de vue philosophique, je ne sais pas. Je ne sais pas si Dieu existe ou pas, s'il y a un créateur ou pas. Ce qui est après la mort, je ne sais pas. Philosophiquement, je ne sais pas. Et là, je reprends les paroles d'Eric Emmanuel Schmidt dans son livre extraordinaire, La Nuit de Feu. Donc il dit, voilà, philosophiquement, je ne sais pas, mais d'un point de vue de mon humanité, je pose un acte de foi et je crois qu'il y a quelque chose. Et au bout de un mois passé dans ce ashram, je me suis dit, ok, je crois qu'il y a quelque chose. Et c'est vraiment avec mon expérience vécue là-bas, avec ces moments hyper forts auprès de ces personnes qui ont décidé de transcender leur vie, de rendre leur vie plus grande que simplement métro, boulot, dodo, quoi. J'ai vécu des choses, voilà, tellement fortes, je me suis dit, ok, il y a forcément quelque chose. Il y a une force qui nous lie tous, il y a une énergie qui nous lie tous. La nature est trop grande et trop belle pour être exempte de sacré. Il y a forcément quelque chose de plus grand, de divin, mais que je ne comprends pas avec mon esprit. Donc voilà, je suis hyper humble. Je ne sais pas ce que c'est, mais je crois qu'il y a quelque chose. Et quand je suis rentrée en France, j'étais assez apaisée, parce que certes, j'avais pas trouvé la communauté pour me sentir exister dans une communauté et dans une religion. Mais j'avais vraiment relié et renoué avec un peu l'humanité tout entière. C'est-à-dire de me dire, on est tous humains et si certaines personnes trouvent du réconfort et de l'amour et de la sérénité dans des rites, dans des religions, dans des textes, dans des dogmes, je suis hyper heureuse pour elles. C'est vraiment le meilleur que je puisse leur souhaiter. Moi, personnellement, quand je fais ces rites, quand je fais le signe de croix, qui est pourtant un geste que j'ai fait pendant des années, quand je vais à la synagogue et que j'assiste à Shabbat, ou quand je rentre dans une mosquée et que je regarde les gens se prosterner, je me reconnais pas. Et si je faisais ces gestes-là, qui sont donc des gestes de prière, ou d'adoration, ou de louange, c'est comme si je jouais un rôle, en fait, et comme si j'étais une actrice, donc c'est pas moi. Mais simplement, je crois qu'il y a quelque chose. Et maintenant, je vais faire en sorte, ou je vais essayer de faire en sorte que ma vie, elle soit un peu à la hauteur de cette force créatrice qui m'a créée, qui a tout créé et qui est divine. Et je crois qu'il y a du divin en moi, en vous qui peut-être m'écoutez, et puis en l'espace, en toute chose, quoi. Donc au quotidien, je n'ai pas de pratique de prière rituelle, et ça ne me manque pas du tout. En revanche, je suis dans une introspection assez constante de ce qui se passe autour de moi et de ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Parce que je crois que toutes les situations qui se présentent à moi dans ma vie quotidienne et depuis toujours, ce sont des situations pour me faire apprendre quelque chose. Je crois que la vie, c'est un grand terrain de jeu où il faut vraiment s'amuser. Mais que c'est la vie est meilleure si on apprend des leçons. Si on n'apprend pas ces leçons, les mêmes situations, les mêmes schémas négatifs vont se représenter à nous encore et encore jusqu'à ce qu'on apprenne la leçon. Des schémas toxiques, des schémas relationnels qui soient de l'ordre de la vie professionnelle, de la vie amoureuse, de la vie familiale. Et je crois aussi que on amène à nous, on attire à nous ce qu'on dégage. Donc si moi je dégage du positif, je vais amener à moi des choses positives, des événements et des personnes positives. Et c'est un peu de ce point de vue-là que je vis ma vie. C'est-à-dire que voilà, j'ai pas de rite, je prie pas, j'ai pas de religion, mais j'ai clairement une spiritualité et je la nourris en nourrissant cette introspection et ce regard sur ma vie. J'essaie constamment de prendre du recul et de me dire OK, il y a cette situation qui se présente, qu'est-ce que tu as appris, où est-ce que tu veux aller, comment tu veux te sentir à la fin de ta vie. Et bien sûr, j'ai envie d'avoir aucun regret, donc forcément au quotidien, je me demande qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour n'avoir aucun regret et faire du bien autour de moi et faire grandir tout l'amour que cette force créatrice me donne. Je peux aussi la redonner aux autres. Je m'appelle Anne-Claire, j'ai 26 ans et je suis catholique.
Donc je viens d'une famille catholique pratiquante. Quand je repense à mon enfance, à mon éducation religieuse, j'ai pas l'impression qu'on m'ait appris à prier. J'ai pas l'impression qu'on m'ait appris les prières en elles-mêmes. Je les ai apprises à force d'aller à l'église, naturellement. Et après, chacun vit sa vie et vit sa spiritualité. Mais dans mon parcours, il y a eu quand même plusieurs choses qui m'ont amenée à être la catholique pratiquante que je suis aujourd'hui, pour qui la prière est maintenant très très importante. Et je pense que la première, c'est le témoignage de ma tante. J'ai une tante maternelle qui est carmélite. Donc carmélite, c'est un ordre religieux catholique. Donc les carmélites vivent dans des carmels, leur couvent, et en fait elles vivent d'oraison. Donc l'oraison, c'est la prière silencieuse, et plusieurs heures par jour. Elles ne sortent pas de leur carmel, donc c'est vraiment une vie de prière et de travail personnel très particulier, qui m'a beaucoup interrogée quand j'étais petite. Et notamment leur prière est une prière, entre guillemets, assez dure, quoi. Elles sont seules, c'est pas une prière avec des chants, avec des textes. L'oraison, c'est vraiment le silence avec Dieu. Sauf que quand j'étais dans ce carmel, je me sentais hyper bien. Il y avait quelque chose là-bas qui faisait que j'avais tout le temps envie d'y aller, sauf que comme elles vivent dans la solitude, enfin en partie, on n'a pas le droit d'aller trop les voir, et en plus on est une grande famille, donc c'était maximum une fois par an. Et moi à chaque fois j'attendais avec impatience les vacances de la Toussaint où on allait voir ma tante carmélite. Et il y a un moment où j'étais tellement bien là-bas que je disais même à tout le monde « Non mais plus tard je serai carmélite ». Alors elles ont été très déçues quand je me suis mariée, mais bon, c'est comme ça, chacun sa vocation. Et je me souviens que je les voyais prier dans l'église en silence et je me disais « Mais elles ont l'air si heureuses, mais qu'est-ce qui se passe au fond d'elles et comment elles font pour prier ?» Et donc j'essayais de les imiter. J'essayais d'aller dans l'église, de me mettre en silence, de me mettre à genoux. Mais moi, il n'y avait rien qui se passait dans ma tête à part toutes les bêtises que j'avais faites la veille. Et du coup, j'étais allée voir ma tante et je lui avais dit mais en fait, je ne sais pas prier. J'aimerais prier, mais je n'y arrive pas. Dès que je prie, je pense à mille choses. J'arrive pas à me concentrer. Je ne sais pas ce que je dois demander. Enfin, et je me souviens qu'elle m'avait vraiment dit mais finalement, quand tu te mets en situation de prière, quelles que soient les pensées qui te viennent, tu es en prière. Et finalement, le fait d'avoir des pensées qui divaguent en permanence, c'est presque une prière encore plus concrète parce que tu offres à Dieu tes soucis, tes pensées, tes projets du lendemain. Et donc tu lui fais vraiment une place concrète dans ta vie du quotidien. Et ça, ça m'avait frappée parce qu'à l'église, c'est pas ça, prier. Et ça m'ouvrait à beaucoup de choses. Et à accepter qu'on puisse prier de façon très différente dans le chant, dans les prières répétées qu'on apprend, traditionnelles, ou juste prier par sa vie et par le fait de se dire « Seigneur, je prends un temps avec toi, je sais pas ce qui va passer dans ma tête et dans mon cœur, mais tout ça je te l'offre en fait, tout ça c'est pour toi et je voudrais que tu sois là dans ma vie. » Après, j'ai progressé en tant qu'enfant, on va dire, et à l'âge adulte, quand j'ai voulu vraiment prendre en main ma propre foi, j'en ai beaucoup parlé avec un prêtre qui était à ce moment-là dans la paroisse familiale et qui m'a appris à approfondir le lien, si je puis dire, direct entre Dieu et moi, prendre du temps tous les jours, essayer de lui faire une place dans ma vie, pas juste aller à la messe, mais que ce soit au quotidien, et essayer de vivre ma foi vraiment à chaque minute, à chaque rencontre, dans chaque sourire. Voilà, donc il m'apprenait beaucoup l'intériorisation de la prière, ça m'a beaucoup aidée à ce moment-là. Et je me souviens à ce moment-là de mon père, qui a une foi un petit peu moins classique que ce prêtre, qui m'avait dit « Mais finalement, cette prière, elle est insuffisante. Parce que là, tu travailles pour prier juste entre toi et Dieu, donc c'est déjà très bien de faire de la place à Dieu. » Mais la foi chrétienne, c'est... Enfin, il parlait en l'occurrence, c'était pas exclusif, mais il parlait dans notre cas de la foi chrétienne, c'est de pouvoir prier Dieu pour s'ouvrir ensuite au monde. Et donc ta prière, elle doit pas juste être verticale entre Dieu et toi, mais elle doit être horizontale ensuite entre toi et les autres. Et il me disait ça autant pour la prière que pour la communion, au moment de l'Eucharistie à la messe. Et ça, ça m'a encore ouvert sur une nouvelle piste de prière, c'est-à-dire que moi, je puise ma force en Dieu, et j'ai besoin de la prière et des rites de la messe pour me recharger en fait de cette énergie, de cette source d'amour-là. Mais si je la garde pour moi, bah, j'ai rien compris et surtout j'ai fait que la moitié du travail. Le plus important, c'est de prier pour ensuite offrir tout ça aux autres. Et voilà, donc à ce niveau-là, ça a été très important. Ça a été vraiment un moment pour moi pour prendre en main cette foi et me dire, ok, maintenant je crois vraiment, mais ce en quoi je crois, c'est en cet amour divin, et que mon rôle sur Terre, c'est de répandre cet amour. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai vraiment eu besoin d'une prière quotidienne. Donc là, de nouveau, le prêtre un peu plus classique m'a vachement accompagnée à essayer de trouver du temps dans ma journée, le matin, le soir, parfois le midi. Ça m'a beaucoup nourrie, je lisais tous les jours l'évangile du jour, je récitais un Notre Père, et je disais la prière scout. Et en fait, la prière scout, je trouve qu'elle est extrêmement simple, efficace, courte, et que tout est dit pour pouvoir aller au travail et confier à Dieu ma journée. Du coup, cette prière, c'est « Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. » Et donc j'y voyais vraiment le désir d'être généreux avec les autres, de donner ma vie pour les autres, de ne pas vouloir d'honneur en échange, et de travailler jusqu'à l'épuisement s'il le faut, mais parce que ma vie elle est là pour les autres. Et que ma vie toute seule, finalement, ça m'intéresse pas du tout. Et ça m'aide beaucoup à avancer. Et maintenant, donc, je suis mariée. Et il y a une autre prière qui vient rythmer ma vie et qui est très importante également, c'est la prière le soir avec mon mari. Donc quand on avait du temps, parce que là encore pour être honnête en ce moment c'est moins facile, on prenait un temps, donc on disait le Notre Père, avec notamment ces deux phrases pour moi qui sont très importantes, que ta volonté soit faite, parce que pour moi c'est vraiment ça, je n'ai pas l'impression que ce soit le grand horloger comme on pouvait dire parfois, mais j'ai la certitude que puisque Dieu est amour, s'il prend un peu en main ma vie, ou en tout cas si j'arrive à suivre ce qu'il veut pour moi, et ben du coup je donnerai plus d'amour aux autres. Après je reste libre, mais que ta volonté soit faite, Seigneur, pour moi c'est vraiment que ton amour se répande sur cette terre et que je puisse être un instrument pour aider à le propager. Et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ça c'est très important aussi pour moi de le redire tous les jours, de me dire vraiment... On a tous nos défauts, on blesse les autres, on est blessé, mais de refaire un peu le point quotidiennement, de se dire « Ok Seigneur, pardonne-nous, mais moi aussi je dois pardonner. » Donc c'est un peu, on est quitte quoi. Tu me pardonnes, mais moi il faut que je fasse un effort et que je pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Et ces phrases, je les médite souvent et elles me font beaucoup de bien dans le quotidien des relations humaines pour passer outre. Et il y a beaucoup d'événements douloureux de ma vie que j'ai passé à force de méditer ces paroles. Et donc, pour revenir au soir, avec mon mari, donc on dit le Notre Père, on prend un temps de silence, et ensuite on récite la prière des époux. Donc la prière des époux, c'est une prière qu'on dit le jour du mariage, que les jeunes mariés ont écrit ensemble, où ils confient leur couple, leur vie à venir, en ce jour du sacrement du mariage. Et nous, en plus particulièrement, dans cette prière des époux, on a intégré une prière qu'on avait écrite quand on était fiancés. Et qu'on était à distance, donc on l'a répété ensemble à distance le soir. Donc pour moi, c'est une prière qui a également beaucoup d'importance parce qu'elle retrace mon cheminement de couple, ce à quoi j'aspire avec lui, et ça nous aide à mettre Dieu dans notre couple, dans notre famille, et à pouvoir avancer à ce niveau-là également. Et en fait, la prière, c'est quelque chose que je trouve extrêmement intime, donc c'est pas toujours évident d'en parler. Et je me suis rendu compte que quand je prie avec d'autres, finalement c'est un moment qui est extrêmement fort pour moi, j'en ai souvent les larmes aux yeux, parce que quand on prie avec d'autres, notamment à voix haute, on se met complètement à nu avec nos désirs, nos craintes, nos doutes, nos angoisses, et on écoute celles des autres avec humilité, et finalement c'est des moments que je trouve très très beaux, qui m'ont beaucoup appris, mais que je vis peu souvent parce que c'est vraiment voilà, quelque chose de très intime. Et après, pour pas non plus dresser un portrait trop idyllique de la prière, j'ai pas toujours été aussi illuminée dans ma vie. Il y a eu des moments plus difficiles. Il y a eu une période où je me souvenais qu'on nous disait voilà, « Demandez, vous recevrez », et on me disait « Mais en fait, la plupart du temps, quand les prières ne sont pas exaucées, c'est parce qu'on a toujours eu un doute dans le cœur, parce que c'est très dur d'avoir 100% confiance dans la prière et dans Dieu. » Et je me souviens qu'il y a une période... où j'avais vraiment quelque chose à demander, et où je priais quotidiennement pour ça, avec vraiment le plus d'énergie que je pouvais, sauf que ça n'a pas eu lieu. Et là, je me suis rendu compte, enfin, je me suis pris une énorme claque dans la figure, c'était il y a 4 ans, et je me suis dit, mais en fait, c'est hyper dur de ne pas confondre prière et superstition. Et ça, c'est quelque chose que je trouve difficile dans la prière. Autant la prière m'apporte énormément, en même temps, j'ai toujours ce recul de me dire, mais jusqu'où c'est une prière et j'y crois vraiment? Jusqu'où je passe dans la superstition? Et en fait, je m'auto-crée un cercle positif dans ma pensée qui va faire que ça va arriver, mais en fait, c'est pas du tout la religion, c'est juste moi qui me le crée. Et ça, je trouve ça très dur, et je pense que c'est tout le cheminement que je vais devoir faire pendant ma vie, c'est garder la confiance en cette prière qui m'a tant apporté et qui m'apporte tant au quotidien, mais sans passer du versant superstitieux.
J'oublie le micro, ouais, je parle avec vous. D'accord.
Exactement.
D'accord. Bon, je parle avec toi. Alors, bonjour, je m'appelle Noura Elhouda, j'ai 42 ans, je suis musulmane. J'ai grandi en Algérie. Pour moi, la prière, c'était quelque chose qu'on a appris. On est né musulman, on a appris ça à l'école. J'ai grandi dans une famille qui a prié toujours, en fait. Mon père qui nous a toujours appris l'histoire du prophète et tout ça. En fait, c'est pas un imam, il connaît le Coran par cœur, mais c'est un instituteur. Mais il nous a jamais dit, voilà, il faut vraiment faire la prière, ou c'est l'heure de la prière, il faut vraiment aller le faire. Et en fait, à chaque fois, je pose des questions, je sais que en fait, je suis vraiment croyante, mais en même temps, quand je fais ma prière, je sens pas quelque chose, en fait. Je la fais vraiment juste pour la faire, parce que je crois que c'est vraiment par habitude. Il y avait des moments dans ma vie où j'ai vraiment arrêté ça. Je la fais pas du tout parce que il y avait quelque chose, en fait. J'avais vraiment plein de questions dans ma tête. Je dis, pourquoi je fais la prière? Je sais que Dieu existe, je sais qu'il m'a donné plein de choses et tout ça. Mais il n'y avait pas vraiment quelque chose qui me... Je ne sais pas comment je peux le traduire. Il n'y avait pas quelque chose qui me relie trop. Il y avait un moment où... j'avais 15 ans, 16 ans à peu près, où il y avait un tremblement de terre. Et cette période, en fait, j'ai vu vraiment... Quand j'ai vécu le tremblement de terre, j'ai dit... Il y a quelque chose qui existe. Et en fait, pendant une semaine, je crois que j'ai parlé avec personne et j'ai pas arrêté de prier. Mais c'était en fait une prière pour dire, là j'ai vu presque la mort et j'ai dit, est-ce que je vais mourir sans faire ma prière bien comme il faut? Est-ce que je la fais par peur? Est-ce que je la fais pour me pardonner? Et j'étais vraiment perdue et j'ai pas arrêté de demander des conseils et tout ça. Et après mon père, il m'a dit un jour, il m'a dit, écoute, soit tu peux prier par amour, il m'a dit ça sera l'amour des libres. Il m'a dit tu peux prier par peur, ça c'est la prière de l'esclave, parce que tu fais vraiment les choses par peur, et tu peux prier pour demander le paradis, et ça c'est vraiment la prière des commerçants. En fait, j'arrive pas à la traduire vraiment exactement en français, mais c'est les paroles du cousin du prophète qui s'appelle Ali. Cette image, en fait, elle est restée vraiment tout le temps gravée dans ma tête. J'ai dit, est-ce que je suis esclave? Est-ce que je suis commerçante? Ou est-ce que je veux vraiment être libre? J'ai grandi, en fait, je faisais ma prière, je m'arrête et tout ça. Je voulais vraiment la faire, mais je voulais vraiment cette relation. Je voulais pas faire juste une prière pour faire une prière et dire, voilà, j'ai terminé ma prière et voilà. Jusqu'au jour où j'ai perdu ma sœur, et je me souviens très très bien, ma sœur elle était très très dans la religion, et je me souviens cette période, en fait j'étais vraiment très perdue, j'étais toujours, en fait je suis toujours croyante, Mais un jour, elle m'a dit, mais Nour Elouda, je te vois, tu pries pas, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Elle était vraiment dans sa phase finale. Et elle me dit, tu sais, Dieu est vraiment très, très grand. Et je suis désolée. Et elle était vraiment dans sa phase finale. Elle me dit, tu sais que Dieu est très, très grand. Et il oublie vraiment personne. Et je te conseille vraiment de faire les choses parce que m'a dit, reviens à la Nour Elouda que je connais. Et franchement, c'était une période où j'étais vraiment perdue dans ma vie. C'était vraiment l'année où je suis venue ici en France. J'ai vu des choses vraiment différentes. Il y avait plein de choses qui se passent dans ma tête. En fait, j'entends parler de la religion musulmane. Je comprends pas du tout. En fait, j'étais perdue. J'ai dit, pourquoi ils parlent beaucoup de la religion? Qu'est-ce qu'il y a dans la religion? Et je me suis dit, il faut vraiment que je cherche, il faut vraiment que je connaisse quand même ma religion. Et après, je l'ai perdue. En fait, j'ai perdu ma sœur, voilà, le moi-même. Et ces mots, ils résonnent tout le temps dans ma tête. Et en même temps, je me suis dit, j'ai pas envie de faire cette prière pour faire plaisir à ma sœur. J'ai pas envie de faire une prière pour dire aux gens, voilà, ou pour... Mais je voulais vraiment que cette prière vraiment vienne de l'intérieur. Je voulais vraiment la ressentir, cette prière. Je veux vraiment ressentir cette présence dans ma vie. Et un jour, je regardais la télé et je tombe sur une publicité qui m'a trop marquée, où c'était un jeune qui regardait la télé, après il va faire le foot, après c'était une publicité comme ça, qui parle vraiment de la prière, et d'un seul coup, on voit la personne qui meurt, et après on entend l'appel à la prière, et ce jour-là, j'ai vraiment entendu l'appel de la prière, j'ai entendu différemment, c'était quelque chose qui m'a... Je ne sais pas comment on dit, qui m'a chamboulée. Je l'ai entendu vraiment. Quand il dit Allahu Akbar, ça veut dire Dieu est puissant et Dieu est grand. Je me suis dit, ça veut dire que Dieu est grand par rapport à tout ce qu'il y a, par rapport à vraiment à notre vie, par rapport à ce que je peux vivre, par rapport à vraiment à plein de choses dans la vie. Ça veut dire que c'est le Dieu qui m'appelle. Si je dis, c'est mon père, j'adore mon père, c'est mon père m'appelle, je vais aller directement lui dire, oui papa. Si quelqu'un, par exemple mon patron m'appelle, je vais aller lui dire, oui, mais mon créateur, il m'a appelé, et je vais pas lui dire oui. C'était quelque chose pour moi, c'était... Je me suis levée sur le coup, j'ai fait mes grandes ablutions, j'ai fait mes ablutions, et j'ai commencé à prier. Et ce jour-là, cette prière, je me suis sentie sur des nuages. C'était quelque chose qui m'a... Je me suis sentie très, très, très légère ce jour-là. Et j'avais l'impression qu'il y a vraiment une boule qui se ressort de mon corps. Je ne sais pas comment je peux vous le dire, mais c'était vraiment quelque chose très, 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 très... c'était différent. Et depuis ce jour, je crois que c'est quelque chose qui m'a trop marquée et j'ai jamais dormi sans vraiment faire ma prière. Malheureusement, la prière, elle est vraiment dans des horaires dans la journée. Mais comme on travaille, voilà, on ne peut pas faire les vrais horaires. Du coup, le soir, si je rentre, c'est vraiment la chose que je devrais faire et je ne peux pas dormir sans faire ça. Parce que sinon, je me sens vraiment très, très lourde et c'est vraiment, c'est quelque chose qui me libère de tout ce que j'avais vécu dans la journée. Quand je fais ma prière, je sens vraiment une vraie relation entre moi et Dieu. Je lui dis juste merci par rapport à tout ce qu'on a. On a trop de chance. Et en fait, chez les musulmans, on peut pas faire la prière comme on veut. Il y a des choses en fait à respecter. Par exemple, il y a 5 prières où on devrait réciter le Coran. Et dans chaque prière, en fait, on devrait réciter Sourate al-Fatiha. Elle s'appelle l'ouverture. Elle a plusieurs noms, cette sourate. Mais en fait, on devrait à chaque fois commencer par cette sourate. C'est vraiment obligatoire. Sinon, ta prière, elle n'est pas valable, on va dire. Elle n'est pas correcte. Et Sourate al-Fatiha, je la récite en arabe. Alors, on dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. Ça veut dire en fait au nom d'Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux louange à Allah Seigneur de l'univers le tout miséricordieux le très miséricordieux Maître du jour de la rétribution, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Quand je lis cette sourate, quand je demande justement de me montrer le droit chemin, à chaque fois, en fait, je me sens vraiment libre. Je suis entre les mains de Dieu. Il va vraiment me guider. Pour moi, c'est une vraie thérapie. Je fais les choses par moi-même. J'essaye vraiment de faire ce qui me semble bien. Et je sais très bien que Dieu est là pour me guider. Quand je lis cette sourate tous les soirs, j'essaye de penser à ma journée. Tous les soirs, j'essaye de dire, est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un? Est-ce que j'ai blessé quelqu'un? Et tous les soirs, je demande le pardon et j'essaye d'analyser tous les soirs ma journée. La prière, pour moi, elle me purifie vraiment. La prière, pour moi, c'est vraiment le fil entre Dieu et moi. Pour moi, c'est vraiment, si je coupe ce fil, c'est que j'ai tout perdu. Je sens pas mon existence, en fait. Je vis juste pour vivre et j'ai pas envie vraiment de vivre comme ça. Ah non, mais j'ai froid, moi je tremble.
Anne-Claire.
Moi, ce que je trouve très beau dans nos trois témoignages, c'est que finalement, il y a un point vraiment en commun, c'est le discernement dans nos vies. La volonté que notre vie soit belle, remercier pour ce qu'on a, et du coup, discerner le soir notamment, pour voir ce qu'on pourrait faire de mieux, ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de moins bien, et voir comment toujours progresser en fait au quotidien. Et finalement, c'est vraiment le point commun, enfin non, l'autre point commun, je trouve, c'est la recherche de sens dans notre vie, quel que soit le chemin que ça a pris, mais ce discernement, je trouve ça vraiment fort qu'il revienne dans les trois témoignages.
Fanny.
Ce que je trouve en commun aussi dans nos trois témoignages, c'est l'aspect gratuit de la prière ou de la non-prière dans mon cas. Et je trouve que c'est hyper important parce que dès que tu pries ou dès que tu fais quelque chose, même dans la vie de tous les jours, pour avoir quelque chose en retour, pour obtenir un service rendu, ça perd tout son sens et ça perd tout son amour et toute sa grandeur. Donc je trouve que c'est hyper important de prier ou d'être reconnaissant sans attendre quoi que ce soit. Et de vivre de manière générale comme ça, de pas vivre pour attendre que les autres te rendent.
Nour El Houda.
Pareil, j'ai ressenti que vraiment on est dans la même direction, avec des prières différentes ou avec des philosophies différentes.
Anne-Claire.
Fanny, prends quelle forme ton discernement, toi? Le temps que tu prends d'introspection, voilà, t'avais parlé d'introspection, que t'essayes d'avoir tous les jours, il prend quelle forme finalement?
Personnellement, j'écris depuis 7 ans, une fois par semaine. Et en fait, je pose sur le papier tout ce qui se passe dans ma vie, de manière assez factuelle, mais aussi tout ce qui se passe dans ma tête et dans mon cœur. Et le fait de sortir de ma tête tout ce que j'ai et de l'écrire et que ça reste écrit, que je puisse ensuite le relire et l'analyser, c'est ma manière pour moi d'analyser ce qui se passe dans ma vie, de comprendre quand je vais dans la bonne direction ou quand je vais pas dans la bonne direction. Et je partage aussi avec toi l'idée que je pense que chaque être humain a une vocation ou un chemin qui lui est destiné et que c'est dans ce chemin qu'il va s'épanouir et se déployer et faire du bien autour de lui. Et je cherche moi mon chemin et la meilleure voie pour moi, c'est souvent voilà par l'écrit que je vais comprendre « Ah mais là, si ça a pas marché, c'est qu'à mon avis c'était une mauvaise décision, je devrais revoir pourquoi j'ai pris cette décision ». Après ça passe aussi beaucoup par des discussions parce que
Certes, c'est des choses intimes, mais j'ai fait l'effort de les partager et maintenant c'est une facilité pour moi de partager en fait ma vie et toutes mes interrogations avec mon entourage parce que je me suis rendu compte que c'était hyper riche de partager mes interrogations, mes craintes et mes certitudes avec les autres pour avoir leur retour et que ça me nourrisse dans mes choix et dans où je vais.
Un immense merci à toutes les trois de m'avoir fait le cadeau de votre témoignage. Merci Anne-Claire d'avoir fait l'aller-retour Strasbourg-Paris, spécialement pour l'enregistrement. Le morceau que vous avez entendu durant les transitions s'appelle Karma Sutra. C'est un titre rétro-sulfuriste de Phare, dont l'auteur-compositeur-interprète n'est autre que Jonathan, l'invité du premier épisode. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a touché, questionné, parlez-en autour de vous et écrivez-moi sur Facebook, Instagram ou sur debonnefoispodcast@gmail.com. Pour être au courant de la sortie des prochains épisodes, abonnez-vous à De Bonne Foi sur votre application de podcast. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous!